attendez-vous au pire, vous allez passer à l'essoreuse et devenir comme les inrecuptibles, et ben en fait, du grand guignol, quoi. Vous allez perdre votre âme, vous allez perdre votre identité et devenir un truc guignolesque.
Et vous allez perdre de l'audience si vous changez, aussi.
Voilà. Donc on vous souhaite pas de devenir la nouvelle Radio Nostalgie, hein.
Oui.
Quand même, mais bon. Voilà, c'était ma petite rubrique, nos amis les radios. Puis alors, non, moi, franchement, quand tu... Alors moi, j'achète toujours les inrecuptibles parce qu'il y a une... Il y a une compilation, et c'est sympa toujours de l'écouter, t'es toujours un peu au courant des nouveautés, et puis aussi de la merde que, dont on s'entiche, enfin les trucs un peu merdiques dont s'entiche Radio... Mais il n'y en a pas dans que ça, dont s'entiche les inrecuptibles. Mais alors, s'il n'y avait pas cette compilation musicale, je ne l'achèterais plus. Parce que déjà, précédemment, comme... Quand il ne faisait paraître, enfin quand la compilation n'accompagnait le magazine que de temps en temps, je n'achetais que les numéros où il y avait la compilation. Donc ils ont dû se dire, on va arrêter les frais, donc là maintenant c'est mensuel. Mais j'achèterai plus du tout, parce que je trouve ça, moi je l'ai, souvent il traîne chez moi, je le lis même pas. Et il m'arrive de le jeter en ayant à peine parcouru le numéro. Il y a évidemment quelques articles, toujours d'artistes sympas, de créateurs, d'écrivains, etc., que j'aime bien. Donc je me dis, merde, mais ils sont noyés dans une masse de trucs commerciaux, d'esprit dans l'air du temps où tout se vaut, en fait. Mm-hmm. L'underground comme le commercial le plus éhonté, la course au pognon et au vide. Donc voilà, c'est vraiment à regret, quoi. À regret que je l'achète. Allez, ça mérite une pause musicale.
Je pourrais te dire en face que je ne t'aime pas. Hey, toi, quand je serai mort, te baigneras-tu encore dans un océan de larmes? Hey, toi, quand je serai mort, feras-tu encore la cata pour vendre tes charmes? Hey, toi, quand je serai mort, entendras-tu encore au loin le fracas des armes? Hey, toi, quand je serai mort, je pourrais te dire en face que je ne t'aime pas.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire. The Post Non Radio Show. Nous émettons à destination du monde libre avec un seul message. Help us. Sortez-nous de là. C'est mon credo de ce soir. Donc, on vient vers toi, qui tu veux, là.
Guy ou Yves ?
J'en commence. Hein.
Oui.
Yves, il a envie de parler.
C'est un petit article signé JLLT.
JLLT.
Toujours dans le Canard enchaîné, mais cette fois-ci daté de cette semaine. C'est-à-dire du mercredi 16 août. Et qui s'intitule Ohio. Et oui, parce que l'Ohio a rejeté mardi 8 août une réforme qui aurait compliqué l'accès à l'avortement dans cet État qui a voté Donald Trump en 2016. Donc, depuis que la Cour suprême a révoqué le droit à l'avortement en 2022, chaque État est libre d'établir sa propre législation.
Oui.
Et donc, l'État en question de l'Ohio, eh bien, ils ont décidé de faire voter les gens, et les gens, ils ont voté. Et à 57%, eh bien, ils ont déclaré qu'ils rejetaient la proposition des républicains. Et donc, l'avortement reste autorisé. Biden s'est félicité en disant « Les habitants de l'Ohio ont parlé haut et fort, la démocratie a gagné. » Bon, voilà.
Tant mieux pour les...
Alors, commentaire, « Cette défaite écrasante est la preuve que les extrémistes sont déconnectés de ce que les gens veulent », a déclaré Laurence Bain, directrice des cliniques pro-IVG de l'Ohio. Ils ont trouvé ça dans Libération du 10 août. Bon, voilà, c'est une petite victoire dans ce pays qui est les États-Unis, qui est une démocratie. Je me suis intéressé à cette constitution qu'ils ont, parce qu'en fait, elle date de 1987, la nôtre de 1989. Bon, évidemment, nous, on en a changé. Eux, ils ont mis les amendements, les 27 amendements. Ce qu'on remarque quand même, à propos de ces amendements, c'est celui sur la liberté de la presse, c'est le numéro 1. Le 2, c'est sur les armes. Le numéro 1, c'est la liberté de la presse. Il est interdit au Congrès de toucher un certain nombre de choses, dont la liberté de la presse. Et voilà, c'est à méditer. Nous qui sommes si friands de liberté, égalité, fraternité, mais qui... Bon, voilà, c'est juste à méditer, disons, avec ce qui s'est passé réellement dans les concentrations de médias, parce qu'il n'y a pas que la presse écrite, hein, il y a la presse de la radio, justement.
Ouais.
Avec une célèbre radio, moi que j'écoutais quand j'étais... Moi j'écoutais tous les jours Salut les copains, c'était une émission géniale, je l'écoutais en faisant mon boulot de lycéen, hein, moi à l'époque. Et donc, c'est bizarre, je ne l'écoute plus. Bon, ça doit être parce que je suis devenu en dehors des... Je ne suis plus ciblé par la radio, je comprends bien, mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé là, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Et puis, pour illustrer un peu notre complaisance avec...
Qu'est-ce qui ne te plaît pas ?
Comment ?
Qu'est-ce qui ne te plaît pas ?
Ben, ça a été racheté, je crois, non ? Europe numéro 1, ça a été racheté.
Oh oui,
on va pas se lancer là-dedans.
Ils ont eu une vie, on l'a fait.
J'ai une autre information, c'est le gendarme des écoutes, bien ligoté, le titre. Les services de renseignement français ont profité de l'été pour marquer un but décisif contre la commission censée les surveiller. Ah ben ça, c'est génial. C'est comme si les prisonniers dans les prisons pouvaient voter un truc contre les directeurs de prison qui les hébergent. Bon, enfin bref, c'est un peu genre là, quoi. Ils ont réussi à faire passer à la trappe un article de la loi de programmation militaire qui accordait à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, on adore les acronymes, là ça fait CNCTR, un accès permanent, complet et direct et immédiat aux renseignements collectés par les agents. Qui réclamait ça ? Le gendarme des grandes oreilles. Cette disposition lui aurait permis un contrôle en temps réel des caméras, des micros et des systèmes d'intrusion informatique mis en place par la DGSE, la DGSI et le renseignement militaire et tout ce qui tourne autour naturellement. Avec l'appui du gouvernement, les services sont parvenus à convaincre les sénateurs LR de se joindre à la majorité pour que l'article du projet de loi soit rejeté le 10 juillet lors de son examen en commission. Bon, et en, en commission mixte paritaire. Peut-être ça reviendra lors du vote, il peut y avoir des amendements présentés. Bon. Le commentaire du canard, c'est la CNCTR se trouve ainsi désarmée. Ses membres sont condamnés à n'opérer que des contrôles a posteriori, en se rendant physiquement dans les locaux des services concernés. Une tâche impossible à réaliser de façon efficace, suivant la commission, vu les moyens modestes mis à disposition par l'État, qui rendent nécessairement limité le temps consacré aux vérifications sur place. Comme les espions, les nôtres en tout cas, et les contre-espions, les nôtres toujours, sont sages comme des images et respectent toujours tous scrupuleusement la loi. Point de suspension. Voilà. C'est, j'avais commencé sur cette constitution de 1787 aux États-Unis, la nôtre suit de 2 ans. Parce qu'en fait, eux, c'est une démocratie, et nous, on dit. Il y a des gens qui disent, en tout cas, qu'on a dépassé ce problème de démocratie et qu'on a fait une république. Mais ce que j'observe pour les USA, c'est qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs et qu'apparemment, nous, les nôtres, et cet article que je viens de lire là, sur le gendarme des écoutes bien ligoté, nous, les nôtres, on a du mal à accepter le contre-pouvoir. On a une république qui impose et qui discute pas. Et c'est un peu, je trouve, le reproche qu'on peut faire à l'état des choses actuellement en France. C'est-à-dire, c'est un pays qui ne discute plus. Alors évidemment, on peut avoir, à la tête de l'État, un homme qui se rend compte et dit, on va faire un petit groupe, tirer de gens au hasard et ils vont discuter. Mais vous vous rendez bien compte que c'est absurde. La méthode est absurde. Le peuple, le pays dans son ensemble ne discute pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire, toutes les structures syndicales, politiques, etc., ont été complètement effacées. Alors, par quoi ? Bah, par la presse, par la télévision, par l'air du temps, je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais ça s'est fait. Et ne serait-ce que les réunions publiques. Il y avait avant des réunions publiques, avant chaque élection, dans les préaux, etc. Les gens y allaient. C'est quelque chose qui existe toujours, mais à dose infinitésimale, disons. Mais il y a cette absence de discussion dans le pays, elle se voit au travers de la violence qui émerge également. Non pas qu'il n'y ait pas eu de violence avant, mais disons, on a quand même une petite violence exacerbée en ce moment. De la part de du gouvernement, disons, comme de la part de certains groupes dans la société, qui ne sont pas forcément a priori les plus violents, mais qui peuvent être les plus en difficulté, disons. Voilà, moi il me semble qu'on est un pays qui ne discute pas. Alors on n'est pas en Europe, on n'est pas tous dans cette situation. L'Allemagne est un pays où ça discute. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je vais vous laisser réfléchir à vos réponses et on se fait une petite pause avec un morceau un peu plus long. Radio Libertaire. The Post Non Radio Show. Et nous émettons sur le 89.4 FM de la bande parisienne, chers amis. Oh, Guy, je sens...
Oui, je suis sur un coup.
Notre agent de liaison avec le monde libertaire.
Alors,
quels sont
j'en étais resté, je ne sais plus bien où, mais du côté de la Biélorussie,
oui,
de
c'est
la
vrai.
Russie, de l'Ukraine.
Les anarchistes polonais,
ouais.
Ukrainiens, et la confrontation avec... Enfin, l'idée de se battre avec les gars d'extrême droite russe qui, pour enfin dans le même élan pour combattre la Russie poutinienne, etc., etc.
Alors, de toute façon, ça n'aura pas de fin, parce que même, on espère que la guerre aura vite quand même, enfin, cette guerre-là, il y en a d'autres, aura vite terminé, parce que dans tous les pays mondiaux, maintenant, on est à peu près dans une même dynamique intense de conflits entre ceux qui ont le pouvoir, on va dire, qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, c'est toujours comme ça un peu, et bien les populations, et avec des thèmes qu'on retrouve... qu'on va retrouver eh bien, partout. C'est pour ça que ça devient vraiment très très vite. Hein, c'est marrant, on a une idée de quand ça a démarré, parce qu'il y a eu ce fameux Covid. Hein, voilà. Alors, même si ça a démarré avant tout ça, il cite un petit peu rapidement, mais quand on les met en groupe, enfin quand on les cite rapidement, tous ces thèmes-là, ça paraît grandiose. Ils mettent par exemple une dynamique vitale pour une méga-machine. Qu'est-ce que c'est que la méga-machine? C'est Jean-Pierre Tertrais hein, qui l'explique là-dedans. Alors, si on détaille comme ça un petit peu rapidement, aéroport, ligne à grande vitesse, autoroute, ferme-usine, barrage, site minier, parc éolien, entrepôt, centres commerciaux, incinérateur, c'est affolant. Hein. Et puis des projets, mais ça, on ne les sait pas parce que c'est pas lancé encore, mais quand ça va démarrer, parce qu'on a l'impression qu'on parle du stop, attention, la pollution et tout, mais ça fait rien, les projets ils se posent, hein, eux, ceux qui veulent du pognon, ils n'arrêtent pas, et donc il y aurait une cinquantaine pour des grands aménagements, la plupart, dans ces grands aménagements, c'est une cinquantaine, c'est des aménagements routiers, hein. Alors le capitalisme, il met ici, c'est construit sur la rupture entre l'humain et la nature, avec l'obsession de convertir des paysages en marchandises, la terre en capital, donc ça y va. Alors il parle effectivement, on l'a vu avec les piscines, on dit parce que les gens ils veulent de l'eau, ils veulent se baigner un peu, ils n'ont pas la mer à portée, donc les piscines ça y va, mais c'est les golfs aussi. Hein. Imaginez 740 structures golfiques qui sont lancées, 740.
En France?
Oui. Ah oui.
Non, c'est pas possible.
Incroyable, oui, l'engouement 7... pour les golfs de luxe.
740 terrains de golf en France.
Oui.
À mort les riches.
Attention, en projet.
À mort les riches.
Oui, alors tout ça c'est de l'eau. Et puis ils mettent 136 projets de construction et d'extension sont actuellement recensés pour diverses autres choses. Des programmes qui souvent sont des complexes immobiliers, des héliports, des piscines, comme on l'a dit, des hôtels de luxe, etc. Tout ça dans un contexte de sécheresse et de canicule.
T'oublies les immeubles. Ah oui, ça n'a rien à voir. Les immeubles de bureaux.
Ah oui.
Il y en a partout, ils sont vides, mais il y en a partout.
Incroyable. Oui. Pourtant, on avait dit que ça allait cesser un peu avec le télétravail, avec les genres de choses comme les gens n'ont plus besoin d'aller au bureau tous les jours. Quoi. Deux fois par semaine, c'est pas mal. Donc, un bureau peut servir à 3-4 personnes.
Il suffit, comme nous, on le fait de temps en temps avec le camarade Yves, mais parce qu'on passe par la banlieue.
Oui.
J'habite moi-même en banlieue proche, certes, mais il suffit de passer par tous ces coins-là. Mais c'est en construction, il y en a partout. Et puis, il y a également beaucoup de construction de bureaux. Il y a aussi déjà beaucoup d'immeubles de bureaux vides.
Vides,
fameux pancartes à louer, 3000 m².
On le voit sur le périph' aussi, souvent.
Il y en a, alors voilà, ça a peut-être rien à voir avec ce que tu dis, mais on est dans les incohérences de l'hyper-fric. Et des choses qui nous échappent, nous, simples couillons. Hein, j'aimerais, J'aimerais un peu voilà, nous situer un peu comme ça, dans le sens où c'est vrai qu'on n'est pas dans les petits secrets.
Mais enfin, faut comprendre tous ces gens qui sont.
Mais là, je suis d'accord. Du... Je ne suis pas d'accord avec les golfs. Les 740 terrains de golf, même, c'est non.
Faut comprendre les gens qui aiment, qui ont la passion du jeu, hein, chez les riches.
Non, mais enfin, 740
les pauvres gens,
terrains de golf.
Ouais, bah oui,
non, mais les riches, ils nous emmerdent avec leur goût, là. Leur goût, ils nous emmerdent. De toute façon, c'est les riches qui nous tueront. Et qui nous tuent.
Ben voilà. Alors, il y a les jeunes. Les jeunes, maintenant, on entend. Ils aiment bien mettre. Certains qui sont connus déjà maintenant, qui se font connaître, et puis on aime bien avoir des têtes des meneurs, hein, des meneurs aussi.
Ouais.
Et puis les jeunes sont jeunes et ils sentent pas qu'on les propulse pour les emmener peut-être mieux. Ouais. Alors donc les jeunes, vous avez saccagé la planète, hein, voilà ce qu'ils disent. Mais ça c'est depuis Jean-Pierre Tertrais, il dit depuis le début des années 70, hein, effectivement, quand c'est créé déjà tous les groupes écolos, etc. Alors les jeunes, maintenant ils continuent à dire vous avez saccagé la planète. On a un espoir, c'est que se crée une solidarité intergénérationnelle. Je crois que ça commence à arriver, peut-être. Voilà. Intergénération au niveau de comment changer les choses, comment. Je pense. Moi, j'ai de l'espoir avec la jeunesse.
Je ne sais pas quoi dire. Changer les choses, oui, mais comment, c'est toujours la même question. Hein.
Oui. Ça va être dur, hein. Ça ne va pas se passer tout seul. Ça ne va pas se passer sans combat. Hein. On l'a vu avec les bassines, je pense. Oui. Alors, il y a des livres. Après, ils font tout. Plusieurs pages même, des dizaines de pages sur la production de livres, les écritures, voilà. Par définition, Camus disait, l'écrivain ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire, il est au service de ceux qui la subissent. C'est souvent aussi comme ça que les bouquins sont écrits. Discours de Suède en 1957. Ouais. Alors ils disent, littérature, anarchie ont toujours fait bon ménage. Même en ces temps où l'on ouvre plus volontiers son ordinateur ou son smartphone qu'un livre, l'intérêt des anarchistes pour l'écrit sur papier ne se dément pas. Exemple flagrant de ceux et celles qui fréquentent notre librairie fédérale, à Publico, peuvent le constater. Si vous restez plus d'une semaine sans vous y rendre, vous remarquez que la table réservée aux nouveautés est censée se renouveler. C'est vrai. Alors, les nouvelles publications, chassant les anciennes, le problème n'étant pas le nombre de parutions, mais la place disponible pour bien les présenter. Voilà. Et toujours ce que je pense quand je vais à Publico, c'est de dire, oh là là, si c'était moi qui avais à faire ce travail d'exposer les livres, je peux le faire comme ça 2-3 fois dans l'année sur un stand, mais à Publico, c'est constant. Alors, la littérature anarchiste ou consacrée à l'anarchisme a rarement été aussi florissante qu'à notre époque. Romans, biographies, autobiographies, BD, poésie, contes pour enfants, autant d'ouvrages qui sont publiés pour le plus grand nombre des visiteurs réguliers ou occasionnels de notre librairie, des livres toujours et encore dont nous rendons compte à travers les recensions publiées chaque mois dans notre mensuel Le Monde Libertaire. C'est vrai, la semaine dernière, j'ai commencé à en parler. Non, j'avais préparé quelque chose. Les livres, alors donc, Ramon Pino fait ce travail. On voit la librairie et je regardais plus loin. Un représentant de littérature prolétarienne, je suis obligé de confirmer. Alors, c'est Jean-Pierre Levaré, voilà. Qui a écrit beaucoup de choses, hein, déjà, hein, Jean-Pierre Levaré. Je crois qu'étant jeune, il avait fait le voyage en autostop d'aller jusqu'en Irak, oui. Je crois. Alors, Jean-Pierre Levaré, voilà. Oui, il est en retraite. Hein. Il l'interroge sur sa retraite. C'est à lire. Voilà. Je le présente simplement parce que c'est tout à lire. Il a une très très grande expérience justement de l'écriture et puis des voyages. Alors, Acrassi, une ligne éditoriale anarchiste-communiste proche du conseillisme, c'est dans les éditions. Hein. Entretien avec Jean-Pierre Duteil. Les éditions Acrassi sont inscrite dans le paysage de l'édition anarchiste. Peux-tu nous dire que, c'est pareil, lui il est interrogé, il présente un livre qui s'appelle Les routes de Nector Macno, manuscrit du chef d'état-major de l'armée révolutionnaire insurrectionnelle d'Ukraine, hein, qui a fait battre, qui a battu en brèche les bolcheviques, hein, sur l'Ukraine et tout, qui a redonné vie, puisque les paysans ukrainiens avaient, je ne sais plus combien de milliers sont morts de faim. Et donc, il a lutté, mais il a eu tout le monde sur le dos. Il a eu aussi bien les communistes que les blancs. Donc, il s'est réfugié finalement après être passé dans plusieurs pays. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Nector Macno. Et puis, il finit sa vie en France. Voilà. Il finit sa vie en France. Dans la misère, un peu. Voilà. C'est des anarchistes locaux sur Paris qui viennent à son aide pour que ça se termine mieux pour lui. Mais attention, il est très blessé, hein, parce qu'il a fait la guerre. Enfin, il a emmené une armée, principalement à cette époque avec des cavaliers et puis tout, hein, sur toute l'Ukraine, le plus sur le Donbass. Et il a été blessé. De nombreuses fois, il est mort aussi un peu de ça ici à Paris. Il a dû décéder, je crois pas faire d'erreur, ça doit être en 1935, quelque chose comme ça. Voilà, au Père-Lachaise. Ensuite.
Il est enterré au Père-Lachaise.
Comment ?
Il n'est pas décédé au Père-Lachaise.
Il n'est pas décédé au Père-Lachaise, il est incinéré au Père-Lachaise.
D'accord.
Voilà. Que dire encore, alors ? Voilà, donc il présente ce livre. Oui, il y a eu très bons ouvrages, hein. Il n'y a pas que celui-là. Et puis, pour sortir de l'amnésie, eh bien, ici, il nous montre un personnage, hein, que moi, je l'ai rencontré comme ça à Publico, j'ai croisé. Je ne l'ai pas connu, je ne vais pas dire que je l'ai connu, mais je l'ai vu, quoi, ouais. La mémoire des vaincus, hein, c'est Michel Ragon. Voilà, le titre n'est pas d'un optimisme fou, dans la mesure où les vaincus dont il est question sont toujours dans les rangs des libertaires. Oui, c'est pas gay, hein, ce que je dis là, hein, d'accord ?
Non.
Voilà, la mémoire des vaincus, on voit le bouquin, et puis là, voilà. Mais c'était un personnage vraiment formidable, Michel Ragon. L'entraide, un facteur de l'évolution de Pierre Kropotkine. Donc l'entraide, eh bien, peut-être une réédition qui est bien là, un facteur de l'évolution qui est très, très chouette, hein. Ça a été écrit en 1902, hein, voilà, durant son exil à Londres. Pour la version française, son compère Élisée Reclus a proposé la fusion de deux mots, entraide, faisant ainsi naître un terme qui n'existait pas encore et qui passera rapidement dans un langage courant. Donc, entre, apostrophe, aide. Voilà. Alors, à propos des éditions de Liberté, il y a beaucoup de choses à dire. C'est Jean-Marc Reynaud qui s'exprime, parce que c'est toujours lui, pour l'instant, qui mène la barque, malgré que l'article soit écrit par Franck Plazanet. Sont connus, hein, dans le milieu libertaire. Une lecture d'hommage à la Catalogne de George Orwell. George Orwell, oui, qui a écrit pas mal de romans aussi, mais entre autres 1984, puisqu'on fait toujours référence à ce roman-là, La ferme des animaux et autres. Alors, il a été rejoindre à un moment, eh bien, la guerre d'Espagne. Voilà. Place George Orwell, je vois ici, c'est représenté à Londres. Voilà. 1950.
En quoi il a été acteur dans la guerre en Espagne ?
Ah, qu'il aurait participé à...
Oui, George Orwell.
Avec la CNT ou avec quelque chose comme ça, non ?
George Orwell.
Oui.
Il a... Comment dire ? Quel est le rapport, effectivement, avec la guerre en Espagne ?
Ah ben, il est descendu là-bas pour...
Il est descendu là-bas ?
Ah, il est descendu là-bas, oui, oui. Pour participer, hein. Pour participer.
D'accord,
ok. Oui, oui. Voilà, oui. Oui, en sachant que lui avait été en Birmanie, hein, son père était en Birmanie, était militaire, hein, oui, son père, en Birmanie. Oui. Et puis lui, bah, il était destiné un peu aussi, étant jeune, hein, 17-18 ans, à aller là-bas.
Ah, d'accord.
Il est allé, puis finalement, il est revenu travailler avec des amis à Londres, dans une librairie.
D'accord.
Voilà. Et c'est de là, après, qu'il s'est mis à écrire des livres. Ouais. Et puis à venir pas mal de fois quand même à Paris, puisque sa tante, elle habitait ici, dans le 12e arrondissement.
D'accord. Voilà. D'autres titres ?
Alors, ouais, Espagne 36, nouvelle légalité qui fait de nous les assassins. Voilà, donc c'est des bouquins de Zotros. Los Asesinos. Voilà, nous autres les assassins. Ouais. La Patagonie, il y a beaucoup de choses sur la Patagonie. Il y a plusieurs pages. Alors, la Patagonie rebelle, la Patagonie, c'est loin. Hein, voilà, hein. C'est un pays tout en hauteur, hein, voilà, de nord-sud. La Patagonie, et puis il y a eu des personnages connus. Vers 1920, la Patagonie était le royaume des grands éleveurs, principalement britanniques, qui possédaient d'immenses domaines. Et puis, il y a eu des revendications ouvrières en Patagonie. Il y a eu des mouvements très, très importants dans les années, maintenant, il y a 100 ans, quoi. Mm-hmm. Puisqu'on on est en 1923. Et voilà, avec Osvaldo Bayer, qui a écrit aussi écrit des bouquins, et puis escalade de la violence et répression brutale, tout ça est raconté, les révélations du livre, et puis Patagonie rebelle, il y a quelque chose sur Jean-Marc Bonnard et Mimo Puzziarelli, d'accord, mais il y a quelque chose sur les enfants. Alors, proposer une culture libertaire loin des clichés de l'anarchisme est affublé, sur la Patagonie, il y a eu beaucoup d'éditions, des écrits, donc en fait, hein. Qu'est-ce que j'ai lu justement sur les enfants? Il y a beaucoup de parutions, c'est ça qui m'a toujours... Alors, les livres qui sont le mieux vendus, ce sont les petits bookshins, tout tirage confondu. Ça, c'est en Patagonie dans les années passées, hein, 2022, 2020, 2021. Alors, les livres qui sont mieux vendus, ce sont les petits, ils appellent les petits bookshins, tout tirage confondu. Qu'est-ce que l'écologie sociale? A été vendu à plus de 6100 exemplaires, pour un municipalisme libertaire, à près de 5800 exemplaires, pour les enfants, hein, attention, hein, un municipalisme libertaire. D'autres titres ont été vendus entre 1000 et 3000 exemplaires en prenant leur temps. Mais un titre sort du lot, notre dictionnaire anarchiste des enfants, sorti en novembre 2022, qui a dépassé à ce jour les 3700 exemplaires vendus. C'est marrant, hein, de lire ça. Ouais. Alors, quels sont ceux qui vous tiennent le plus à cœur? Quels sont ceux que vous aimeriez faire connaître davantage? Alors, pour moi, c'est Jean-Marc Reynaud. Hein. Oui, toujours. C'est Jean-Marc Reynaud qui répond. J'ai particulièrement apprécié le livre de Claire Ozias et d'Annick Well sur la grève des ovalistes. Claire et Annick sont deux amies, des militantes, féministes et libertaires. Et c'est sous cette double optique qu'elles ont analysé cette grève, dont on dit qu'elle fut la première grande grève des femmes en France. Voilà. Et puis cet OVNI, qui est les avatars de l'anarchisme, sorti en 2022 de Michel Froidevaux. Ça, je l'avais déjà lu en présentation. Il y a pas mal de temps, mais enfin, c'est des bouquins qui sont encore très, très en vente. Voilà. Ils peuvent être... Voilà, dictionnaire anarchiste des enfants. Donc il y a une... Il y a une photographie là du bouquin. La littérature jeunesse libertaire est-elle, existe-t-elle? Conversation à bâton rompu. Et qui est-ce qui est des cailloux dans l'engrenage? Ben, c'est Flo. Oui. Parti à Thierry Maricourt qui nous parle aussi de pas mal de livres dont lui, il les recense. Je sais pas comment on dit.
Il les recense. Ouais.
On dit ça? Il recense.
Ouais.
Voilà. Oui.
Ouais.
Voilà, donc tout ça, c'est à lire. À Gaston Couté, il a fait aussi un truc sur Gaston Couté, recensé Thierry Maricourt. Voilà. C'est bien, sur Gaston Couté, un poète particulièrement engagé. Oui, bon, lui, il est non seulement engagé, mais il a payé un peu de sa vie, hein, parce que...
Donc tout ça, c'est dans Le Monde Libertaire du ouais. Juillet-août.
Ah oui, il a...
Quand est-ce que paraît le nouveau numéro du Monde Libertaire? En septembre, mais peut-être à quelle date, tu le sais, ça, Guy?
Début.
Début septembre?
Ah, attends, le 4-5,
attends que soit digéré le numéro d'été.
Oui.
C'est vrai qu'on est encore en été. C'est vrai.
Surtout qu'il doit être conséquent, le numéro d'été.
Oui, il est conséquent. Je le vois. Les auditeurs ne le voient pas, mais effectivement, la revue est conséquente, oui, effectivement.
Okay, ah oui. Okay. La bande dessinée, même à la fin, il y a toute une bande dessinée à la fin. Hein. Oui, une grande partie de bande dessinée.
D'accord. Ouais.
Voilà, la culture est une amie, la BD en fait partie.
Voilà.
Il y a une bande dessinée sur Guernica. Bon, il y a Hermo, Vive à l'anarchie, Dolores. Oui, il y a des livres. incroyable, le nombre de livres qu'il peut y avoir. Oh, il est inimaginable. Oui. Mon libertaire, rendez-vous avec la pigne. Pourquoi a-t-il suivi Thorez? Je me demande, parce que pour suivre Thorez, bon, d'accord. L'école est finie, vive le temps de lire. Oui, oui, effectivement, quand viennent les vacances, c'est le temps de lire. Voilà.
Oui. C'est le temps de la pause musicale aussi.
Oui, bon, oui. Alors, les numéros, la librairie Publico, moi, j'en profite pour rajouter que la librairie Publico, ça y est, va ouvrir mardi à 13h. Déjà.
Ok.
Incroyable.
Oui, oui, parce qu'il faut bien tout. Il faut bien des gens pour acheter tous ces livres.
Oui.
Allez.
Allez. Radio Libertaire, Radio Libertaire, The Post Non Radio Show, Radio Libertaire.
Quelle voix
Radio Libertaire.
Non, mais elle ne parle. Ça ne.
Voilà.
C'est pas grave. Ça a tout son charme malgré tout.
89.4 Radio Libertaire. C'est la bande des quatre qui émet depuis le dôme de chaleur de Paris. Under Paris. Non, sur Paris. Mm-hmm. Et nous, on est under.
On est under.
Under. Oui. Under. À destination du monde libre, avec un seul message.
Fais ton raclage de gorge, vas-y.
Enfin, je t'en prie. Je vais te racler autre chose, moi, tu vas voir.
Voilà.
Alors non, ce n'était pas Robert Smith et The Cure, mais c'était un groupe, parce qu'il y avait un petit quelque chose là. Mais c'était A Place to Bury Strangers, I Know I'll See You. Alors, ce titre et tous les autres que nous allons écouter, mais on s'est écouté aussi Tolkien, Charles de Gaulle, Ship on Drugs, Tanit, et Der Blurtarch. Bon, excusez-moi, ça passe pas. Pour l'instant, ouais, on a écouté que ça. Bah, ça fait pas beaucoup, dis donc. Sont extraits de compilation d'un magazine qui n'existe plus, mais qui a existé pendant une bonne dizaine d'années, un peu plus même. J'ai pas les dates, mais je peux le vérifier comme ça, vite fait. D'un magazine qui s'appelait le magazine Élégie, un magazine dédié aux musiques New Wave, Dark Wave, post-punk, dream pop, industriel, etc. Et que j'achetais, et je crois que je dois avoir une petite centaine de ces compilations, donc j'ai puisé dedans. Musique gothique également, j'allais oublier gothique, goth et goth. Hein, donc un magazine qui a existé de 1983 à 2013, ce qui nous fait finalement pas beaucoup de... Bah si, quand même.
20 ans. 10.
Non, 10...
83, 2013,
15 ans.
Oui, 15 ans.
15 ans, donc évidemment, j'ai... Voilà, 15 ans. Donc, je suis un grand... j'étais un grand, grand... Je suis toujours un grand fan de magazines musicaux. J'en ai toujours beaucoup acheté. Et j'en achète encore. Alors, je les ai pas gardés, les magazines, hein. Pas la peine de me dire le numéro 1 tel, la couverture. J'ai rien gardé, c'est impossible. Je crois que j'aurais eu besoin d'un loft de 500 mètres carrés pour garder absolument ce que j'achetais dans tous les styles de magazines, tous les styles musicaux. Donc j'ai énormément j'en avais des piles. Des piles et des piles et des centaines de magazines, donc, que j'ai malheureusement jeté, hein, ne sachant pas quoi en faire. Parce que, évidemment, contrairement à tous nos amis milliardaires qui ne savent plus quoi faire des appartements, châteaux, maisons qu'ils possèdent, bases souterraines, enfin tout ce que vous voudrez, paquebots, yachts. Moi, j'habite un modeste 20 mètres carrés, donc. J'ai jamais trop su où mettre tous ces magazines. Je regrette, hein. Bon, en même temps, je sais pas trop ce que j'aurais fait avec des centaines et des centaines de magazines, hein. Ouais. Voilà. Donc, la soirée continue. Décidément, la litière du chat ne passe pas. Elle a du mal. Elle continue sur Radio Libertaire, évidemment. Nous sommes le vendredi soir, j'espère que vous êtes à l'écoute, chers auditeurs et auditrices, et que vous n'êtes pas tous partis en vacances. Mais restez là, ennuyez-vous avec nous. Ah. Allez, un autre titre est celui-ci, allez, tiens. Radio Libertaire, oui, j'ai compris. On va s'écouter tout de suite un morceau, le temps que Yves nous quitte.
Yves nous dit au revoir. Yves.
Salut Yves.
Au revoir.
Au revoir. Oui, bah voilà, un morceau là maintenant, le temps.
Entre bien Yves, oui.
Qu'il parte et on reprend l'antenne juste après ce morceau-ci de Normal Oil.
We'll be right back.
Radio Libertaire, les amis de la nuit.
23h37.
Ouais, environ. À l'instant, nous avons entendu un titre, alors je ne reconnaissais pas du tout. Mais en effet, si, c'est bien Normaloy. The Power of Spirit. Le pouvoir de l'esprit. Donc c'est bien, je revérifie, c'est bien ça. C'est bien... c'est bien Normaloy. Excusez-moi, j'ai toujours mon...
la litière pour chat dans la gorge.
Ah ouais, mon chat dans la gorge. Alors... Qu'est-ce que je voulais dire? Juste après cette émission qui n'est pas encore à peu près finie, voilà, excusez-moi, je suis là. Après cette émission, donc, d'habitude, nous plongeons dans les montages des émissions précédentes qui créaient la bande sonore de la nuit jusqu'au samedi matin, dans la matinée, ça dépend aussi à l'heure, de l'heure à laquelle ça finit. Ce soir... En fait, j'ai décidé d'inaugurer une série de... Enfin, je sais pas si appeler ça des mix. En tout cas, je vais m'y essayer ce soir. J'ai envie de faire quelque chose. Donc, ça ne sera pas tout de suite le programme nocturne, en fait. Voilà, peut-être que vous vous en foutez hein, de ce que je dis.
Non, on est très heureux, effectivement, que tu nous proposes quelque chose.
Parce que ça fait un moment quand même qu'on s'en va relativement tôt. Enfin, je trouve. Puis là, je me suis dit...
C'est-à-dire qu'on commence aussi relativement tôt aussi, c'est pour ça.
Oui.
Maintenant, avant, on débutait à 22h30, là maintenant on débute à 21h15, 21h30 à peu près.
Horaires qui vont de nouveau, je pense, changer à la rentrée.
Oui, hein. Oui, il y a d'autres émissions qui vont effectivement combler le vide.
Il y en a une. Il y en a une qui va se rajouter. Un vendredi par mois de 21h à 22h30, il me semble. Et on verra par la suite. Mais pour l'instant, il y en a une. Donc déjà, il y aura un vendredi ou...
Le troisième, à mon idée, oui, oui. Quatrième vendredi, oui.
Comment tu le sais?
Bah, je sais que c'est un créneau qui est toujours libre, ça. Alors, est-ce que c'est celui-là qui sera pris? Je sais pas. Voilà.
Mais
je pense, parce que si je pense à un créneau libre le vendredi, je sais
oui,
que la plupart des créneaux qui sont libres le
j'oubliais,
vendredi, c'est le quatrième.
J'oubliais les amis d'Orwell. En effet, on commence aussi plutôt parce que les amis d'Orwell sont en vacances.
Ah oui, voilà, voilà.
Oh,
oui, oui, bah oui, on pensait plus à Jérôme. Bah oui, oui.
Comment ai-je pu l'oublier?
Oui.
Incroyable.
Oui, oui, oui.
J'ai complètement oublié, en fait. Cette émission existait encore. Bon, écoutez, ce qui fait en fait qu'on commencera à partir de 22h la plupart du temps.
Oui.
Et 22h30, le quatrième, enfin il peut être là aussi le deuxième. Enfin, je me souviens plus trop quand est-ce que Jérôme est là.
Oui, le deuxième, une émission maintenant qui est passée. Oui, exactement, le deuxième vendredi, c'est libre aussi, entre 7h et 9h, oui. Entre 7h et 9h.
D'accord.
Le premier vendredi. Premier vendredi du mois, c'est au-delà du RL.
Non, mais là, c'était 21h à 22h30.
Oui, oui. Ah oui, oui, aussi. C'est, ah, oui, c'est plus tard après, c'est derrière.
Pas de, c'est pas de 19h à 21h.
C'est derrière.
C'est
aussi,
de 21 ouais. À...
Ah oui, oui.
À 22h30.
Oui.
En fait. Mais je ne suis pas sûr que les amis d'Orwell aient un... Comment dire? Un jour... particulier. Enfin, vendredi...
Ils étaient tous les 15 jours avec...
Oui, ils étaient en...
Avec Offensive.
Exactement. Je ne sais plus comment on dit ça... Ouais. Ils étaient en alternance, voilà, en alternance.
Ils étaient en alternance avec Offensive.
Ils étaient en alternance. Donc, qu'est-ce que là, il n'y aura plus d'alternance, puisque. À si. Moins qu'il y en ait encore une.
C'est pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas s'il y aura encore une alternance, en fait. Bon. En tout cas, les horaires de changeront à la rentrée.
Changeront à la rentrée, hein. Oui, 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 oui.
À la rentrée, on oui. Reviendra plus vers les 22h, à vrai dire. 22h, 22h15, 30, au cas où les émissions de ces camarades durent un peu plus longtemps.
Eh ben.
2011, 30 ans.
Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil hein? Non, à l'autre bout du micro.
T'as quelqu'un à l'autre bout du micro?
Ouais.
Oui, ben on écoute, d'accord. Bonjour, oui.
Y a toi. Vous êtes sur Libertaire, toujours.
Oui, j'ai été enregistré, alors.
Ah oui, tu as été enregistré, là, à l'instant.
Mais c'est vrai ?
Ouais.
Non, parce que si tu veux que je lise un tout petit truc, je peux lire un tout petit truc.
Dis-moi, fais comme tu veux.
Non, je sais pas, tu...
Ben, vas-y.
Parce que c'est très bien raconté, c'est...
C'est pas encore la fin, complètement.
D'accord. Donc, je peux le faire, alors ?
Tu peux.
C'est Jean Moulin, les 100 vies d'un héros. Et alors, c'est raconté pour les enfants et c'est écrit par quelqu'un de bien connu comme écrivain. C'est Didier Danax. Voilà. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit « Pendant de longs mois, je suis entré en contact avec tous ceux qui refusaient la collaboration avec l'Allemagne, qu'ils soient de droite ou de gauche. Il y a 80 ans, Jean Moulin disparaissait après avoir été arrêté par la Gestapo puis torturé par Klaus Barbie. Ce triste événement inspire à Didier Danax le texte de ce bel album illustré par PEF. Tous ceux qui ont déjà co-signé Les Trois Secrets d'Alexandra et Papa, pourquoi t'as volé Hitler ? T'as voté Hitler. Etc. Donc il a illustré d'autres albums. La vie du célèbre préfet est retracée, donnant à combattre comment se produit un engagement aussi fort que le sien et pourquoi tant d'années après, il demeure un exemple pour tous. Nous voulions tellement que nos rêves deviennent réalité quand nous aurions vaincu l'obscurité. Les illustrations de PEF sont vivantes, comme toujours, et les mots de Danax percutants, restituant bien l'atmosphère de cette affreuse époque.
PEF, c'est l'auteur des albums de Titeuf.
Ah, c'est possible, oui, voilà, oui, oui. Alors, pourquoi... du coup, c'est toujours Thierry Maricourt qui écrit « Pourquoi a-t-il volé Thorez ?» voilà ce qu'il dit. Toujours pour les... Apparemment, hein, en édition pour les enfants. Alors, la vie trépidante de l'homme des basses besognes du PC. Le ton est donné sur la couverture de ce livre de Sylvain Boulouk. Maurice Tréhant, l'inquisiteur, rouge. Voici une page de l'histoire du Parti communiste français, digne d'un roman d'espionnage dont l'historien s'est fait une spécialité. Avec ici, quasiment inconnu, dans le rôle du préposé, aux basses œuvres, Maurice Tréhant, 1900-1949, garçon puis gérant de café à Besançon, très tôt militant communiste actif. Découvrir son parcours permet de saisir le recrutement d'un parti qui se veut du peuple, embrigadant ce peuple pour s'en remettre aux ordres du Parti communiste d'Union soviétique. Tréhant acquiert les responsabilités, devient gérant du journal communiste Le Sommeur, profite de ses séjours en prison pour lire et accroître son prestige militant, constituant des listes noires d'adhérents, selon lui, peu fiables. Il veille à purger le parti, et ce, dès avant le début des procès de Moscou. Un avant-gardiste. En 1940, après la victoire des Allemands, il engage des discussions avec eux pour, au nom du pacte germano-soviétique, reprendre la parution du quotidien communiste L'Humanité, dans la France occupée. Coupable selon le parti, qui l'accable pour se dédouaner d'une faute politique grave. Il est le seul responsable, ayant pris unilatéralement la responsabilité de cette tentative de reparution, oubliée. Alors donc, en oubliant les Jacques Duclos, les Maurice Thorez et tous les autres, sauf Maurice Tréhant, qui aura des comptes à rendre de cette démarche peu compréhensible, même pour les militants les plus serviles du parti. Simple lampiste, Tréhant ? Pas exactement, car s'il n'a pas les capacités particulières pour être un excellent orateur. Oui, j'ai cherché la ligne qui servait. Alors, pas excellent orateur, mais en revanche, il possède des talents d'organisateur hors pair. Il les utilise sans relâche. Les tumultueuses années 1920-1930 et celles qui suivent lui donnent l'occasion de briller au sein du parti. Sylvain Boulouk montre l'engrenage qui fait d'un jeune militant dévoué, multipliant les réunions de cellules, les voyages, les rencontres, le thuriféraire des pires saloperies staliniennes. La construction du parti, calquée sur celui de Moscou, devient un but en soi. Tréhan se montre sans état d'âme, avant de lui-même subir l'ostracisme d'un PCF qui, sans pitié, dévore ses propres enfants. Donc le PCF va l'éliminer en 49.
Alors je faisais allusion à PEF, et il semblerait que ce soit Pierre-François Martin Laval, qui est le comédien très connu des Robin des Bois. Et si j'ai bien compris, effectivement, apparemment, c'est l'auteur de ces dessins, d'après ce que je comprends en tout cas.
Oui, oui.
Si vous voulez éventuellement me donner davantage d'informations, vous téléphonez à la radio. Mais voilà, Pierre-François Martin Laval qui va à partir du 24 septembre, je crois, à peu près, je crois, il me semble, qui va présenter une pièce inspirée des histoires de des Monty Python. Donc ça s'appelle Spamalot. Et c'est une histoire inspirée effectivement des récits des Monty Python. Je vais aller le voir, je pense, à mon avis. Ça, le choix aura le mérite, en tout cas, d'être vu et d'être créé, en tout cas.
I wish whoever's amiss in this life, he doesn't leave it alone. Somebody is amiss in this life, going off and on, in this radio station. Hey, Meg, you hear me, Leo Lamb? Better leave it alone or God's gonna come and get you. I pay him for this broadcast. I don't think I can get him here. Hey, man, you hear me, Leo? That's what people need today.
Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est quasiment la fin pour cette émission parlée, en tout cas, puisque j'ai dit que je restais pour une suite musicale mixée. Et c'est presque la fin, rien à rajouter. Serge.
Oui.
Rien à rajouter.
Non, rien.
Je t'ai vu vérifier.
Rien, oui, je vérifie simplement. Je reviens effectivement. C'est bien Pierre-François Martin Laval qui a fait les illustrations des bandes dessinées qu'évoquait Guy. Et donc, c'est bien lui. Et donc, il est à l'affiche à partir du 24 septembre. 20, 23 septembre, pardon, à l'affiche de Spamalotte, donc une adaptation de l'histoire des Monty Python au Théâtre de Paris. Voilà.
Non, on dirait que ça te fait bien envie.
Ah oui, oui, énormément, énormément. Alors, moi, ouais. Moi, j'ai bien aimé l'histoire des Monty Python, et donc revue et corrigée par Pierre-François Martin Laval, ça doit vraiment, vraiment être du délire, je pense.
Ok.
Voilà.
Qui nous dira.
Voilà, je dirai.
Ou pas. On verra. Guy, cher ami.
Oui.
C'est la fin.
Oui,
ce soir.
Au revoir.
C'était super que tu sois là.
Oui, bah oui. La semaine prochaine.
Alors, il se peut que la semaine prochaine, il n'y ait pas d'émission, car il se peut que je ne sois pas présent.
D'accord, bah écoute.
Que je prenne éventuellement des vacances.
Ah oui, oui.
Mais rien n'est moins sûr.
Bon.
Donc, je n'en sais rien. En fait, je peux pas dire. Je peux pas vraiment. Voilà. Donc, nous vous souhaitons tout ce qu'on peut souhaiter d'habitude.
Bah, une bonne nuit à l'écoute de...
Merci de me couper la parole. Super, hein, ça va. Une bonne nuit à tous, sauf aux connards qui nous appellent pour nous insulter. T'inquiète pas, on va retrouver ton numéro de téléphone, mon gars, on va te blacklister. C'est pas un problème.
C'est pas sympa, hein. Ouais.
Ouais, et puis bon, il a rien d'autre à foutre, quoi. Je vais dire, bon, comme si moi j'écoutais Radio Courtoisie toute la journée, puis je leur envoyais des télégrammes pour leur
et
dire.
Et encore.
Hé, hey, les fascistes des années 30, là, qu'est-ce que vous faites? Enfin bref, tout ça relève de la plus haute mesquinerie humaine.